des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle et le prof Taillon s'amuse à décortiquer la loi qui prohibe les manifestations à 50 mètres des hôpitaux, écoles et autres institutions publiques. Ensuite, dans un retour sur le résultat de l'élection fédérale de la semaine dernière, il tente de mesurer les effets de la prise de position de François Legault sur les relations Québec-Ottawa. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, pour le journal et le journal. Alors, Dubé et les infirmières, là, évidemment, je parle du ministre de la Santé et son grand plan pour ramener 4000 infirmières dans le système, ça va pas très bien.
Non, c'est mal parti. Et je te dirais que franchement, moi, j'ai été un peu surpris. Ben, il fallait s'attendre à des réactions mitigées. Mais écoute, ça a été presque entièrement négatif. Moi, ce que j'ai entendu vendredi, donc le lendemain du dévoilement du plan, du côté des infirmières qui ont été interrogées, comme le veut le terme galvaudé là, sur le terrain, là, c'est-à-dire il y a des journalistes qui sont allés rencontrer des infirmières pour leur poser des questions et des ex-infirmières. Et il me semble que le son cloche, là, c'était presque unanime. C'était des primes, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va améliorer mes conditions de travail. Alors que je suis au bout du rouleau, on est épuisé, on veut une garantie de cesser de faire des 16 heures imposées. Et donc le baume, si tu veux, de la prime proposée par Christian Dubé, qui propose une prime qui va de 12 à 18 000 $ dans certains cas, on dirait que ça n'a pas eu comme l'effet de motivation là escomptée. On verra avec le temps, mais y a l'autre chose, Antoine, dont je vais te parler, et que j'ai trouvé un peu malheureuse, c'est que à l'intérieur du gouvernement, on me signalait qu'ils étaient pas contents parce qu'ils avaient proposé à Nancy Bédard de la FIC, principal syndicat là, d'infirmières, d'être présente à l'annonce du gouvernement pour envoyer un signal positif, pour montrer que le syndicat était d'accord ou appuyait cette démarche-là et insuffler une espèce d'énergie positive là-dedans, et qu'elle avait refusé. Et de l'autre côté, moi, je vais aller vérifier avec la FIC, et à la FIC, on me dit pas du tout, c'est pas vrai, il niait d'avoir été invité, et au contraire, il déplorait même le fait que on leur a présenté, dans le fond, le plan de M. Dubé juste une heure avant le début de la conférence de presse de jeudi dernier.
Oh, on est dans un cas qui dit vrai.
Ouais, ben là, donc, ça, c'est pas bon, évidemment. Là. On voit qu'il y a de la tension, même en coulisses, et que les deux parties sont pas capables, visiblement, d'être à la même table et de lancer le même signal. Donc, ça aussi, je trouve que c'est malheureusement, c'est dommage. L'autre point, Antoine, j'ai pu parler un peu à Christian Dubé vendredi.
Oui. Oui, ta chronique portait là-dessus samedi dernier.
Ben, donc, lui, il me dit qu'il s'y attendait. En tout cas, moi, je suis pas sûr là, tant que ça, mais il dit qu'il comprend les gens d'être sceptiques. Il y a tellement eu de promesses de transformation du réseau de la santé dans le passé. Donc, il comprend là, que il y a du scepticisme et tout ça. Mais, bon, il se disait complètement déterminé. M. Dubé se voit comme un agent de changement. Et donc, quand on veut faire des changements, il faut être déterminé, il faut être têtu. Il m'a dit aussi, dans une conversation, à bâton rompu. Donc, il garde la cape. Mais aujourd'hui, lundi, c'est un moment important. Il rencontre les PDG de l'ensemble des six CIUSSS. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait exiger que chacun fixe une date à partir de laquelle les PDG vont s'engager à ce que dans les établissements de santé, on offre les bons corps de travail aux employés du secteur public d'abord et ensuite aux agences privées et non le contraire, parce que là, on est rendu là que des corps de travail de jour sont fournis là, par des employés des agences privées, puis ça évidemment, ça nuit parce que c'est pas ça qui aide à offrir des conditions plus stables dans le public. Là.
Ça, c'est une amélioration des conditions de travail. Là. Quand les infirmières disent c'est beau la prime, mais nos conditions de travail, ça, il me semble que c'en est une amélioration.
Ben oui, sauf qu'il faut voir, parce que justement, il y a des infirmières qui, vendredi dernier, disaient comment ça se fait. On n'a même pas une date à partir de laquelle on n'aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais là, tu sais, M. Dubé disait, je peux pas annoncer une date. Et comme on reprochait dans le passé, d'ailleurs, à Danielle McCann, dans la gestion de COVID, elle annonçait des choses en disant, oui, à partir de maintenant, vous allez voir, ça va changer. Puis finalement, les PDG de CIS ou CIUS disaient, ben non, on n'est pas capable de livrer ce qu'elle a dit. Bon, alors lui, il a dit, je voulais pas imposer une date moi-même en sachant pas si c'était réaliste. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il rencontre aujourd'hui les PDG et que eux, dépendamment de la réalité dans leur secteur, ils vont établir comme un échéancier pour offrir des meilleurs corps de travail. Mais encore là, ça ne veut pas nécessairement dire non plus l'arrêt du temps supplémentaire obligatoire. M. Dubé disait, c'est sûr que aussi ça va prendre du temps, c'est pas en quelques semaines. T'sais, les infirmières qui souhaitent faire revenir au bercail, par exemple, des retraités, c'est pas en 2-3 semaines qu'elles vont voir la différence. Il va falloir qu'ils en rentrent pas mal pour que là, l'effet cumulatif se fasse sentir et qu'il y ait moins de temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça va prendre quand même des mois. Alors, et aussi, M. Dubé, n'en démarre pas. Le manque de personnel, ça, c'est un point là, extrêmement important auquel il doit s'attaquer. Là, il s'attaque maintenant. Mais aussi, il y aura un projet de loi cet automne pour faire en sorte qu'il ait accès aux données de l'ensemble des établissements en temps réel, ce qui lui est permis présentement uniquement en raison de l'urgence sanitaire. Donc, il veut rendre ça permanent. Et l'autre chose, c'est qu'il veut aussi une transformation de l'informatique pour qu'on ait un seul système et de meilleurs outils informatiques même pour le personnel, là, par exemple dans les urgences, dans les établissements de santé, que les systèmes se parlent entre eux et que le ministère ait accès à ça. Donc ça aussi, c'est comme un énorme chantier. Il veut tout faire ça dans la dernière année de mandat. Donc, il en a énormément sur les bras. Je dirais presque une mission impossible.
T'écrivais samedi que le réseau est comme un véhicule enlisé, puis on comprend qu'il y a plus qu'une roue qui est prise dans la boue ou la neige.
Oui, exactement. Puis là, ben imagine un peu Christian Dubé avec le cric, comment
on dit. Oui, c'est ça.
Alors, il appelle. Donc, on lui souhaite bonne chance, mais moi, je trouve que c'est ça. Il en a beaucoup à livrer, beaucoup sur les bras, et c'est sûr que je te dirais que le premier élément, je disais samedi, la base, c'est de commencer à faire en sorte de renverser la tendance, c'est que les infirmières n'aient plus ce foutu temps supplémentaire obligatoire qui les décourage et qui incite pas justement même des jeunes infirmières à entrer dans le réseau. Donc, ça, c'est vraiment comme l'étape numéro un, ça presse, et bon, le reste, on souhaite aussi, parce que c'est sûr, là, écoute, moi, j'avais écrit une chronique il y a une couple d'années. J'ai dû passer une nuit à l'urgence dans le corridor.
Oui, je me souviens.
En raison d'un pépin de santé. Et écoute, j'en étais pas revenu. Là, à quel point il y avait comme un sentiment de médecine de brousse là, dans des corridors d'urgence. Puis justement, les papiers remplis au stylo, les cartables à anneaux là, qui claquent là, même en pleine nuit dans les postes d'infirmières que les patients entendent toute la nuit, clac, 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 alors qu'on est supposé être rendu à l'informatique. Mm-hmm. Ça fait pitié.
François Legault nous avait promis des belles écoles, mais on comprend que ça coûte cher, des belles écoles, puis ça force donc ces coûts-là des reports de projets.
Oui, et c'est en raison de la surchauffe aussi immobilière. On sait que, ben, je dis immobilière, oui, mais des coûts de matériaux. Pour être plus précis, c'est que le bois, l'acier, tout a coûté plus cher depuis notamment le début de la pandémie.
Ouais.
Et ça a forcé même de reporter des appels d'offres pour des maisons des aînés. Le bureau d'enquête du journal avait révélé ça. Puis nous, on a fait une vérification, mon collègue Patrick Bellerose. Le ministère de l'Éducation n'avait pas de liste vraiment exhaustive. Mais on a constaté donc qu'il y a des projets d'école qui sont reportés aussi parce qu'il y a eu des appels de propositions et les soumissionnaires présentent des projets avec des coûts trop élevés par rapport aux projets qui étaient prévus par les centres de services. Notamment, il y a un lab école en Estrie. L'augmentation était de 58% des coûts là, par rapport à ce qu'on avait évalué. Ouh. Et le plus bas soumissionnaire. Donc, on a décidé de mettre ça sur la glace et ils devront voir à représenter le projet d'une façon différente. On a vu d'autres écoles, notamment à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Alors, Patrick Bellerose a au moins 4 exemples là, d'écoles qui dont la construction va être reportée parce que l'appel d'offres a révélé là, des coûts qui étaient trop élevés par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça aussi, je te dirais que c'est un petit peu un réveil brutal. Je voyais dans une entrevue que Jean-François Roberge, en décembre 2018, donc pas longtemps après avoir été assermenté comme ministre de l'Éducation, il disait non seulement qu'il voulait des plus belles écoles, mais qu'il voulait aussi que ça aille plus vite. Il voulait qu'on construise des écoles en 3 ans maximum au Québec, alors que ça prend 4 à 5 ans. Mais là, on est mal parti parce que la surchauffe des coûts fait en sorte que même on retarde des projets. Donc, j'imagine que ça ne lui fait pas plaisir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire là-dessus cette semaine. C'est sûr que ce sera un sujet pour lui. Là, il devra un peu répondre là-dessus et voir quelle est l'ampleur, là, je te dirais, des dommages par rapport aux prévisions qu'ils avaient, parce que j'ai l'impression que ça va affecter le nombre d'écoles et de belles écoles là, qui voulaient inaugurer avant la fin du mandat à la baisse, malheureusement.
En terminant, Rémi, on comprend que Québec solidaire a entrepris une vaste repopulation du Québec. Et ils ont des enfants les uns après les autres. Puis là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a annoncé en fin de semaine qu'il devenait papa.
Oui, alors imagine, la grosse année devient chef parlementaire de Québec solidaire et en plus, ben va devenir papa. C'est une magnifique nouvelle. Et il a partagé même sur les réseaux sociaux aujourd'hui une photo de lui. Il dit qu'il y a tellement eu de commentaires positifs. Il a même reçu un cadeau, comme une petite pièce de vêtement pour bébé qu'il exhibait sur Twitter.
Ouais,
et
ouais.
Fait noter, lui, lui-même portait un T-shirt des Expos de Montréal, ce que je salue. De belles couleurs affichées pour M. Nadeau-Dubois. Et ça fait donc, après Sol Zanetti, qui avait eu un enfant l'année dernière, Catherine Dorion, ben, un autre donc de Québec solidaire, effectivement, tu disais.
Émilise Lessard-Terrien aussi.
Oui, Émilise, t'as raison. Écoute, ça fait vraiment...
Non, je te dis, il repeuple le Québec.
Exact. Ça va
mais
faire
en tout cas,
solidaire.
Ça change son image, Gabriel Nadeau-Dubois, de jeune révolutionnaire, un peu tête brûlée, à chef de parti d'une gauche qui veut de plus en plus être une gauche de gouvernement. Et là, futur papa, c'est quelque chose. Ça, c'est un changement d'image, une évolution
voilà,
importante.
Et une grosse année. Effectivement, là, que pour lui, c'est une transformation assez complète.
Merci beaucoup, Rémi. Je te souhaite une belle semaine et on se reparle tous les jours cette semaine, je tiens à le dire.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Aux nombreux auditeurs de La Haut sur la Colline.
À demain!
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, jeudi dernier, l'Assemblée nationale a adopté à toute vapeur donc une loi pour interdire les manifestations à moins de 50 mètres des hôpitaux, écoles, cégeps, centres de vaccination. On en a beaucoup parlé la semaine passée, pas toi et moi, là, mais justement, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Mais mon impression, c'est que c'est la fin implicite de l'état d'urgence. Je rappelle que aux auditeurs, le gouvernement, avec la loi sur la santé publique, il y avait toute la possibilité de décréter ce genre d'interdiction, surtout que c'est crépusculaire, là, c'est bon pour un mois.
Oui, cette loi-là est aussi intéressante quand on regarde la manière dont elle a été adoptée que lorsque l'on regarde son contenu. Alors, pourquoi le gouvernement a fait le choix, puis c'est un peu la première fois là qui limite les droits et libertés dans cette crise, par le biais d'une loi du Parlement plutôt que par un décret? On sait qu'un décret, ça se vote beaucoup plus rapidement. Ça passe en Conseil des ministres.
Ça se prend.
Ça n'a pas besoin de faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est parce que l'idée vient des libéraux eux-mêmes. Je crois que Marois Risky est arrivé avec une suggestion. Peut-être qu'on voulait répondre à ça.
Ouais.
Peut-être aussi que l'on voulait piéger les partis d'opposition. Notamment le Parti conservateur du Québec, qui est un parti fort dans la région de Québec, où la CAQ aussi espère garder ses comtés à la prochaine élection. C'est un thème qui est délicat pour ce parti, aussi délicat pour Québec solidaire, hein, le droit de manifester devant un cégep, devant une école. QS est un peu les héritiers du
printemps. Ça rappelle les souvenirs.
Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a pu jouer. C'est-à-dire que voilà un sujet sur lequel on veut forcer les oppositions à se positionner.
Mm-hmm.
Mais sinon, sur le fond des choses, si on regarde ça avec un peu plus de noblesse, c'est probablement là la meilleure façon de sortir de l'état d'urgence. Donc, officiellement, on est toujours dans un état d'urgence, mais c'est pas parce qu'on est dans l'état d'urgence qu'on est obligé de faire fi ou de court-circuiter le Parlement. On peut respecter, mettre de la normalité dans l'état d'urgence.
C'est ça.
C'est peut-être un peu la solution la plus raisonnable, parce que je comprends plusieurs de mes collègues qui, à juste titre, trouvent que ça fait longtemps qu'on est dans un état d'exception, qu'il faut en sortir, mais il faut pas oublier que le jour où on en sort, c'est tout le dispositif qui tombe.
C'est ça.
Alors, on peut pas commencer à dire, ben là, on n'est plus dans l'état d'urgence, sauf pour tel décret. Non. Soit il y a un état d'urgence et ces décrets-là peuvent être pris. Et donc, si on veut sortir de l'état d'urgence, ben, il faut réadopter les décrets dont on a besoin pour la prochaine année.
Ah oui.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les mettre de façon permanente dans notre droit. Donc, c'est pas si simple que ça. Sortir trop tôt de l'état d'urgence, c'est aussi rendre l'état d'urgence plus permanent à certains égards.
Ouais, ouais.
Et moi, j'aime bien cette solution.
Tu as toujours eu ce souci-là.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est
ouais.
beaucoup plus compliqué d'en sortir que ça en a l'air. Mm-hmm. On dit, ah, l'état d'urgence, c'est mauvais, il faut en sortir au plus vite. Mais on le voit dans certaines crises, quand on en sort trop rapidement, on adopte une loi pour la nouvelle normalité.
Pérenniser les décrets, c'est
et
ça?
Qui intègre certains dispositifs qui étaient à l'origine temporaires. Donc, okay. Moi, ce jeu-là, j'aime bien le scénario actuel. On garde le dispositif d'exception, mais de plus en plus, chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, on en débat à l'Assemblée nationale. Ça avait commencé un peu avec la vaccination obligatoire
oui.
pour les personnels de santé. Là, on l'avait fait sous forme d'un débat, d'une commission parlementaire, mais sans nécessairement adopter la mesure à l'Assemblée. Là, on est allé plus loin. La loi a été adoptée par l'Assemblée. Autre phénomène intéressant sur la façon dont cette loi-là a été débattue. Hein, on dit « loi spéciale adoptée jeudi ouais. ». Mais en vérité...
C'est pas une loi spéciale.
Ben, pas du tout. On mélange toutes sortes d'affaires. Il y a...
En fait, c'est quoi une loi spéciale? On se posait la question parce qu'il y a des lois adoptées sous procédure de Bâillon. Il y a des lois adoptées à toute vapeur, mais avec l'assentiment de tous. C'est quoi une loi spéciale?
Oui, bien, dans la manière dont on le communique, généralement, c'est une loi spéciale, c'est une loi adoptée rapidement où on convoque l'Assemblée, notamment, par exemple, pour gérer un conflit de travail, mettre ouais. fin, bon. Mais en vérité, c'est pas différent la procédure qu'on suit dans ce temps-là de ce qu'on appelle le bâillon.
Non.
En fait, ni le bâillon, ni la loi spéciale existent. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, ce qui existe, c'est une procédure d'exception où on limite le temps de parole.
C'est ça.
Et là, on met le mot bâillon pour colorer la chose. On met le mot loi spéciale pour la colorer aussi d'une autre manière, mais à la fin, c'est la même procédure. Et ce qui est fascinant, c'est que jeudi, on a eu recours à ni l'une ni l'autre de ça, parce que lorsqu'on a un consentement unanime, on peut toujours rester dans la procédure régulière, mais avancer beaucoup plus vite. Parce que tout le monde est d'accord à franchir les étapes. Donc, un bel exemple pour montrer que derrière les mots « baillon », « loi spéciale » et tout ça, la réalité derrière est souvent tout autre. Enfin, sur le fond des choses, est-ce que cette loi est utile, efficace, raisonnable? Est-ce qu'il va y avoir des contestations?
Ouais.
Ben, moi, je suis très confiant pour l'avenir de cette loi pour trois raisons. D'abord,
je pense qu'elle ne sera pas contestée.
Elle va être contestée, mais ça ne marchera pas.
Okay.
En tout cas, c'est là où je loge, si je peux dire. D'abord, parce qu'elle s'inspire directement d'un dispositif similaire pour les cliniques d'avortement. Et ça, ça avait fait l'objet d'une contestation en Colombie-Britannique. Ça s'est rendu jusqu'en cour d'appel. Puis, par rapport au dispositif de la Colombie-Britannique, on a jugé que c'était raisonnable et justifié.
OK.
Et le Québec, en 2016, le ministre Gaétan Barrette s'est inspiré du dispositif qui, lui, a pas été contesté au Québec, mais on peut penser que ce qui est bon pour la Colombie-Britannique serait bon ici aussi. En plus, ce dispositif-là, il est plus raisonnable, ce qu'on a adopté jeudi dernier, que pour les cliniques d'avortement. C'est la même distance, 50 mètres, mais dans le cas des cliniques d'avortement, c'est pour l'éternité. Là, la loi, c'est pas une loi crépusculaire.
C'est ça.
Alors qu'à l'inverse, la limitation qui a été adoptée jeudi dernier, elle va mourir en même temps que l'état d'urgence. Il y a une espèce de système de reconduction, mais elle ne peut pas aller au-delà de la crise sanitaire.
Voilà.
Donc déjà là, ça ajoute beaucoup. Donc, on a quelque chose qui, d'après moi, va passer le test. Évidemment, il y en a certains, c'est le cas de Julius Gray ce matin, qui disent que c'était pas nécessaire, cette affaire-là, puis ça sera pas efficace. Pas nécessaire, selon certains, parce que le code criminel, puis ce qu'on appelle, nous, le droit commun, là, le restant du droit qui s'applique normalement,
ouais,
peut déjà permettre aux policiers d'agir. C'est vrai, mais
oui,
attention, c'est
oui,
pas
c'est
le même.
Oui, c'est vrai, ça. Moi, je pensais, par exemple, aux manifestants... contre pour la lutte au changement climatique, qui s'était présenté, c'était des militants de Québec solidaire, ils s'étaient présentés au pont Jacques-Cartier, ils avaient grimpé sur le pont.
On peut les enlever, bien sûr.
Ça, c'est... On n'a pas eu besoin de loi pour interdire ça. Ils ont été accusés.
Oui.
Et donc...
Mais la réponse est là. Ils ont été accusés.
Oui.
C'est-à-dire que le fardeau n'est pas du tout le même pour les policiers, là. Si on veut accuser en vertu d'une infraction dans le code criminel, ça prend de la preuve. Ah, pas le même fardeau de preuve. On est dans du hors de tout doute raisonnable. Okay. Pas une mise en accusation
c'est
par
mieux...
le DPCP.
OK, le pénal, c'est plus facile.
Ben là, on est dans un système un peu comme si j'ai brûlé un arrest-stop, là.
Ouais, ouais, c'est ça.
Une amende, voilà, vous n'êtes pas dans le 50
mètres. Excès de vitesse.
Ah oui, exactement. Donc, on n'est pas. On peut bien dire que le droit commun prévoyait déjà tout ce qu'il fallait, oui, mais pas avec la même facilité d'application. Mmh. Donc, la loi aura une utilité.
Okay.
Et elle, je l'espère, va passer le test des tribunaux.
Faisons un petit retour sur l'élection d'il y a une semaine.
Une semaine qui semble déjà une éternité.
Incroyable.
C'est
on
dur
a beaucoup...
d'imaginer hein, qu'il y a une semaine, on était en plein débat d'élection fédérale.
Oui. Les oppositions ont beaucoup insisté sur le prix politique à payer pour le premier ministre parce qu'il a vraiment mis tout son poids du côté des conservateurs et des bleus, comme il disait, mais on sentait que c'était... Vraiment, il y avait comme un préjugé favorable pour le Parti conservateur de Renaud Tout.
C'est le sujet d'après-élection.
Ouais.
Quel sera le prix à payer pour M. Legault dans ses relations avec Justin Trudeau? Moi, je suis un peu sceptique. J'ai l'impression que le naturel va revenir très rapidement et que les gouvernements ont des intérêts parfois convergents, parfois divergents, puis que les aspects personnels risquent de ne pas dominer la chose. Mais là où il y aura un prix politique, pour M. Legault, je pense que c'est pas dans ses relations avec l'externe, le fédéral, mais plutôt à l'interne, à l'Assemblée nationale. Dans l'arène politique québécoise,
ouais,
ça va laisser des traces. Et c'est ça ce à quoi on a assisté d'ailleurs mardi, mercredi, c'est les partis d'opposition à Québec qui, au fond, reprochent à M. Legault, au fond, d'avoir défait son image de chef d'État au-dessus des clivages partisans, pour être tombé dans un chef de clan qui est animé par des préférences partisanes.
Mm-hmm.
Je pense qu'il a surtout un peu fragilisé sa propre coalition. Quand on regarde, là, c'est qui les militants de la CAQ,
ben
c'est
oui,
qui le personnel politique, on voit une coalition multicolore, mais plus la coalition prend des positions, plus elle perd des morceaux. D'une certaine façon, le départ de Dominique Anglade de la CAQ, c'est un peu le moment où la CAQ se fait un peu moins trudeauiste.
Oui.
Et depuis, on peut voir dans les anciens harpériens, les anciens proches de Stephen Harper, les anciens proches du Parti québécois, des gens de toutes sortes d'horizons qui se travaillent ensemble à la CAQ, au fond, ce qui les lie, c'est tout du monde qui n'aime pas trop la vision trudeauiste du Canada. Donc ça, ça leur critiquer Justin Trudeau à la CAQ, ça sert de ciment. Mais là où ça devient fragile pour M. Legault, c'est qu'en prenant position davantage pour le Parti conservateur ou davantage pour le Bloc selon l'élection, il fragilise sa coalition. Sa coalition est unie dans une volonté de freiner le projet centralisateur de Justin Trudeau, mais pas au point d'assumer une préférence entre les teintes de bleu que sont le Bloc et le Parti conservateur. Et je pense que dans sa sortie, c'est en prenant trop précisément position pour quelle teinte de bleu choisissait d'approuver qu'il a, il a indisposé une partie de sa propre coalition.
Oui, même si dans sa coalition, il y a des gens qui viennent du Parti libéral du Canada. Je pense à Brigitte Legault, une de ses organisatrices principales.
Il y en a, mais le départ de Dominique Anglade symbolise quand même le moment où cette attrition-là a été un peu digérée, je pense, pour la CAQ.
Parlons maintenant de la déclaration de Justin Trudeau. « Je suis autant Québécois que vous ».
Oui, je pense qu'on a beaucoup parlé de la question adressée le lendemain au chef du Bloc, mais ce passage-là est très important. Quand Justin Trudeau dit « Je suis autant Québécois que vous, M. Blanchet », on a là un gros malentendu dans ce qu'est le fédéralisme. Évidemment, comme individu, Justin Trudeau est incontestablement un Québécois, un citoyen, un député du Québec de la circonscription de Papineau. Mais dans le propos qui consiste à dire « Moi, je suis député à Ottawa du Québec, donc je parle autant au nom du Québec que l'Assemblée nationale », ça, c'est un réflexe profondément antifédéraliste. Mm-hmm. Et c'est souvent à l'origine de beaucoup de malentendus. On entend souvent « Ouais, le rapatriement de la Constitution en 1982, c'est pas vrai que c'est sans l'accord du Québec, parce qu'à Ottawa, il y avait une majorité de députés libéral, fédéral, qui ont voté en faveur.
Et, je pense qu'il était 74 sur 75 députés, ben oui. Puis il y en a 73 qui ont voté. Il y a juste Louis Duclos.
Oui, tout à fait.
C'est... Qui, par la suite, est devenu bloquiste quelques 15-16 ans plus tard.
Et là, parler ainsi, c'est pas comprendre c'est quoi le fédéralisme. Le fédéralisme canadien, c'est 11 entités qui s'unissent ensemble. Il y a 11 membres du club. Et dans ce club-là, l'entité qui a le droit de parler au nom du Québec, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Et à Ottawa, on ne parle pas au nom d'une province ou d'une autre. On parle au nom de l'entité fédérale qui est une entité, qui a ses intérêts, qui a son projet. Et donc, quand on commence à prétendre que la Chambre des communes peut consentir à des choses à la place du Québec, puis que les députés qui sont là seraient au fond des défenseurs que de l'intérêt du Québec et non pas de l'intérêt de l'ensemble du Canada, je pense qu'on se trompe un peu, là. C'est une fédération. L'entité qui peut consentir au nom du Québec, c'est l'Assemblée nationale. L'entité qui consent au nom des institutions centrales, c'est le fédéral. Faut pas mélanger.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon.
Merci, Antoine.
À la semaine prochaine.
Cube Radio.